Bonjour à tous. Alors voilà, comme il a été dit, Laurent et le comité pastoral voudraient que je puisse d'une certaine manière me présenter parce que on se croise tous les dimanches, mais on n'a pas l'occasion de se parler les uns les autres tous les dimanches parce qu'on est quand même beaucoup dans l'assemblée. Donc voilà une courte présentation de qui je suis. Donc je m'appelle Jérôme, je suis marié à Samuel Brouzakis qui est là-bas dans le fond avec son beau tailleur. Donc comme vous l'avez pu remarquer, qui est passionné de beaux vêtements, qui est pour moi évidemment la plus belle des femmes. Donc j'ai un enfant, Baptista, et alors ma belle-fille, mais que je considère comme ma fille Nina. Donc nous sommes mariés depuis un an, demain. En fait demain ça fera un an. Et... Et voilà, donc pour faire court, quand je réfléchissais un petit peu à comment apporter mon témoignage ce matin, donc j'ai 12 chapitres de ma vie, mais donc je ne vais pas rentrer dans les 12 chapitres de ma vie parce que j'ai exactement 10 minutes, donc si je prendrais qu'une minute par chapitre, on dépasse déjà. Mais donc pour faire court, je suis natif de la région de Charleroi. Par contre, vous dire d'où je viens, c'est compliqué parce qu'il faut savoir que j'ai déménagé 9 fois en 18 ans, donc ça fait plus ou moins 2 ans par habitation. Et donc l'enfance, on va dire que j'ai eu une enfance tout à fait classique, normale, avec des parents croyants mais non pratiquants, je dirais, qui étaient à la recherche. Donc ils ont été dans une église protestante, on est allé chez les Témoins de Jéhovah, et puis après, voilà, ils ont vécu quelques expériences spirituelles et puis en fin de compte ils se sont tournés vers rien du tout. Mais pour ma part, en primaire, j'ai pris la décision en première primaire de suivre le cours de religion protestante, ce qui est totalement bizarre étant donné que la plupart de mes amis suivaient soit morale ou soit religion islamique, étant donné que je suis natif de Montigny, donc voilà, forte communauté turque en général. Et donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai choisi la religion protestante, il y a quelque chose qui m'attirait là-dedans. Et donc j'ai découvert un petit peu la Bible et qui était Jésus pendant les 6 premières années de ma vie. Après, le grand tournant, on va dire, ça a été quand mes parents ont pris la décision de déménager sur Nivelles. Donc en fait, ils m'ont complètement déraciné de ma région, de mes amis, de ma culture. Et quand j'ai débarqué sur Nivelles, j'aurais jamais pensé que partir d'une région, simplement d'une région, faire 30 kilomètres, ça allait bouleverser toute ma vie. Parce que les cultures de région sont complètement différentes. Quand on vient de Charleroi et qu'on va sur Nivelles, enfin, les gens me regardaient comme un extraterrestre. Rien que déjà l'accent, c'était déjà compliqué à gérer. Et puis même, des gens un petit peu plus aisés en général, pas que, parce qu'il y a des quartiers dans Nivelles qui sont, où il y a encore énormément de misère, des personnes qui sont vraiment dans les grandes difficultés. Mais donc voilà, j'ai été vraiment... ça a changé un petit peu toute ma vie. Le fait d'avoir débarqué sur Nivelles, mes parents pensaient faire prendre une bonne décision en déménageant. Et en fin de compte, c'était l'effet tout à fait inverse parce que je me suis tourné vers des personnes qui vivaient un petit peu les mêmes difficultés que moi. Et donc, je me suis retrouvé à traîner avec des personnes qui n'étaient pas... ou peu fréquentable, même si aujourd'hui ça reste des amis à moi. Voilà, je rentrerai pas dans les détails là-dessus. Et donc, faut savoir qu'à 17 ans, étant donné qu'avec mes parents ça n'allait pas, j'ai pris mon indépendance, donc je suis parti de la maison. Et à 17 ans, on n'est pas prêt du tout à vivre seul, pas du tout. Surtout quand on côtoie des personnes qui font certaines choses, on commence à commettre des actes de délinquance, ce genre de choses. Voilà, vous pouvez imaginer un petit peu ce qui a pu se passer à 17 ans dans ma tête, seul, face à moi-même, c'était assez compliqué. Par contre, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours essayé d'avoir une vie normale, en tout cas, essayer d'avoir une vie sociale, d'avoir une vie, il faut faire ce qu'il faut faire pour pas se retrouver non plus dans des situations qui pourraient m'amener à vivre la prison, ce genre de choses. Donc, allez, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours été un bosseur. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Ce qui m'a beaucoup aidé également, c'est le mouvement hip-hop. Donc, j'étais très très imprégné dans le mouvement hip-hop. Il faut savoir qu'à l'époque, donc il y a plus de 15 ans d'ici, le rap et tout ça, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas ou peu. Et on a essayé de développer ça, en fait. Et on a été un petit peu les initiateurs du mouvement, ici, en tout cas en Wallonie. Et on organisait beaucoup d'événements et ce genre de choses. Et pour, en tout cas, les jeunes qui connaissent Damso, Romeo Elvis et tout ça, ce sont des petits qui sont venus chez nous et qui ont découvert un petit peu l'hip-hop grâce à nous. Donc ça, c'est un peu une fierté quand même, je dois dire que, voilà, quand on voit ces personnes se développer musicalement comme ça, ça fait toujours plaisir. Et puis après, je suis parti vivre à Londres un an parce que j'avais pas réellement d'attache ici. Et puis, j'avais rien entre les mains. Donc, j'ai un cousin, enfin, de la famille qui habite sur Londres. Il m'a dit, écoute, viens. J'ai été là-bas. J'ai vécu un an à Londres. J'ai bien profité. Mais c'est réellement là-bas, en fait, que ma vie a pris une autre tournure parce que c'est là où j'ai rencontré Dieu. Donc, mon expérience est toute particulière parce que j'étais dans un bus en rentrant du boulot et j'ai une conviction sur le cœur que si je priais aujourd'hui, j'allais rencontrer Dieu. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'avais pas fumé à ce moment-là, j'étais clean, quoi, j'avais pas bu une goutte d'alcool, j'étais clean de chez clean. Et donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre comme pensée. Et puis je me suis dit, bon, je m'en fiche, il y a personne qui va me voir, je suis rentré chez moi. Mon cousin n'était pas là, j'ai commencé à prier. Et j'ai demandé à Dieu de se révéler, j'ai dit, qui que tu sois, Allah, Bouddha ou Jésus, si t'existes vraiment, fais ce que t'as à faire, quoi. Et le soir même, il a répondu. Et donc, j'ai vécu une expérience spirituelle toute particulière. Voilà, que je vais pas rentrer dans les détails maintenant, sinon ce serait trop long. Mais ça m'a littéralement apeuré. J'étais effrayé. J'étais complètement effrayé parce que je réalisais que le divin existait. Que le monde spirituel existait. Donc, j'ai réalisé que Dieu existait, mais que le diable existait aussi. Et ça m'a vraiment fait flipper parce que une fois que je suis revenu à moi, je vais dire, je me suis dit waouh, mais en fait on n'est rien du tout quoi, on est strictement rien. Et en fait j'ai réellement pu sentir que le monde spirituel était tellement puissant et que moi j'étais tellement rien du tout. Et donc ça m'a réellement effrayé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléphoné une personne que je connaissais qui était chrétienne et comment je vais dire affermie dans la foi. Donc c'était la mère de Batista. Donc je lui ai téléphoné, je lui ai demandé ce qui se passait, elle m'a expliqué, elle m'a envoyé une Bible, etc. Et puis après j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à prier un petit peu de mon côté. Puis après on s'est rapprochés elle et moi, et donc j'ai pris la décision de rentrer en Belgique pour pouvoir m'installer. Donc je me suis rangé entre guillemets. On s'est marié. Et c'est là que j'ai commencé à développer une vie spirituelle. Donc j'ai été dans une église, régulièrement. Enfin, j'étais attaché à une église, puis je me suis mis au service dans l'église jusqu'au jour où je me suis. On m'a même proposé d'être ancien dans l'église. Donc voilà, je grandissais spirituellement dans ma vie. Puis après, je vais dire que j'ai vécu un moment tout particulier d'ascenseur émotionnel, comme on dit. Donc une grande joie et une grande peine en un très court moment. Donc Batista est arrivé, Batista est né, et ce qui a été une grande joie. Mais trois mois après, on a diagnostiqué deux cancers à ma femme. Encore. Voilà, c'est quelque chose qui me touche encore parce que ça a été 6 années. Désolé. Ça a été 6 années difficiles. 6 années de dur labeur, je dirais. Parce que, elle a dû subir ablation du sein. Elle a subi, je pense, c'était 4 opérations sur 3 mois. Elle était complètement épuisée. Baptista qui était bébé. Et il a fallu continuer la vie, je vais dire. Il a fallu continuer à faire grandir le petit, m'occuper de mon épouse, continuer à travailler parce qu'on n'a pas le choix. Il faut faire rentrer de l'argent. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que il n'y a pas beaucoup de monde autour de vous, à part réellement mes beaux-parents et quelques personnes. On se retrouve vite seul dans le grand défi. Donc ça a duré 6 ans, mais on a continué à aller à l'église, continué à servir Dieu tant que c'était possible, parce qu'évidemment, entre les chimios, entre les opérations, entre la fatigue, c'était compliqué. Jusqu'au jour où elle est décédée. Ça a été aussi tout particulier parce que on se retrouve seul avec un enfant de 6 ans qu'on va devoir gérer, qu'on va devoir lui expliquer que sa mère ne reviendra plus jamais. Ça, c'était ma plus grande crainte. Pour moi, c'était allez, on peut gérer en tant qu'adulte, on peut essayer de gérer en tant qu'adulte, mais en tant qu'enfant, c'était ma plus grande crainte. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout remis entre les mains de Dieu. Et je lui ai dit, écoute, je lui ai parlé un petit peu crûment. Je lui ai dit, écoute, tu m'as foutu dans la merde, maintenant tu te débrouilles. Tu prends en charge mon enfant, tu prends en charge ma vie, mais moi je sais pas comment je vais faire. Mais je te fais confiance, je te fais complètement confiance, mais moi je ne sais pas comment je vais faire. Et je dois dire que il m'a surpris jour après jour. Il m'a amené dans cette église. Il m'a permis de vivre des moments proches de lui. J'ai pu me rapprocher de lui. Et en même temps, j'étais dans une dépression, une sorte de dépression, parce qu'on ne peut pas faire autrement que tomber au plus bas quand on vit ce type d'épreuve. Surtout qu'on cumule énormément de fatigue, on cumule énormément peut-être de déception. De personnes qui viennent prier pour nous, qui disent « Allez, Dieu peut guérir » ou « Dieu va guérir ». Et puis en fin de compte, la souveraineté de Dieu, on la découvre dans ces moments-là. Parce que Dieu est souverain de toutes choses. On peut essayer tout ce qu'on veut, on peut s'imaginer plein de choses, mais en fin de compte, Dieu est souverain. C'est lui qui décide de toutes choses. Mais il faut savoir une chose, c'est que, étant donné que Dieu est souverain, c'est lui qui nous relève. C'est lui qui nous prend en charge. C'est lui qui nous dit, écoute, tout ce que je te demande, garde la foi, je m'occupe de tout. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc j'ai vécu vraiment des moments incroyables ici parce que c'est une église qui recherche Dieu. Et dans des moments comme ça, c'est exactement ce qu'on a besoin. Parce que même si on n'a pas la force de prier, l'Esprit prie à notre place. Il nous soulage. Il nous libère de nos angoisses, de nos peurs. Et il nous dit d'avancer, pas après pas, jour après jour. Et ça, c'est une expérience incroyable que j'ai pu vivre. J'ai pu vivre une expérience incroyable aussi parce que je me suis tout doucement rapproché de mon épouse, Samuel. Et j'aurais jamais pu penser que Dieu aurait pu restaurer mon cœur pour pouvoir revivre quelque chose. Et puis le fait de gérer aussi le petit qui est dans la souffrance de sa mère et puis qui voit son père se rapprocher d'une autre femme, ça aussi c'est quelque chose de compliqué à gérer. Mais Dieu a tout pris en charge. Je lui ai simplement dit, écoute, moi j'ai pas de force. Je n'ai pas de force. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment parler. Je ne sais pas comment vivre. Mais il m'a soutenu. Et encore aujourd'hui, il me soutient. Et donc, Dieu m'a restauré. Je peux dire qu'aujourd'hui, Dieu m'a restauré, même si c'est toujours une souffrance de parler de ce genre de choses. Parce que, on n'oublie pas. On n'oublie pas les blessures. On n'oublie pas ces moments qui sont émotionnellement forts. mais Dieu restaure. Dieu restaure. Et j'étais pas du tout dans l'optique de me remettre dans un ministère ou quoi que ce soit. J'avais dit, écoute, Seigneur, fous-moi la paix. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi vivre une vie normale, quoi. Laisse-moi en paix, quoi. Je veux bien servir dans l'église. Je veux bien faire des petites choses, mais fous-moi la paix, quoi. Et puis, un jour, Laurent vient me trouver. Et me dit, tiens, avec l'équipe pastorale, on pense que t'as un appel pastoral sur ta vie. Là, j'ai dit, mais lol, quoi. Lol. C'est juste pas possible, quoi. Même si au fond de moi, ben, je connais cet appel, je sais qu'il est là. Je me suis dit, bon, on verra. Donc j'en parle à ma femme. Elle me fait, mais oui, mais évidemment, vas-y, go, quoi. Je dis, ok, on va voir. Et puis, en fin de compte, ben, le Seigneur met le calme, il met la paix. Il dit, ok, t'inquiète pas, dans tous les domaines de ta vie, tout ce que t'as pu traverser depuis ta plus tendre enfance, j'ai toujours été là. Et là, maintenant, si tu penses que t'as pas de force, que t'as pas les capacités, que t'as pas de chic ou tchac, moi, je m'en occupe. Je dis, ok, ça marche. Et donc, pour moi, aujourd'hui, c'est une joie de pouvoir partager tous ces moments avec vous, de pouvoir prier pour notre communauté, pour notre ville, et de pouvoir prêcher la parole de Dieu, de pouvoir œuvrer avec vous, parce que je pense que Dieu est incroyablement bon, incroyablement grand, et ce qu'il a pu réaliser dans ma vie, il peut le réaliser dans vos vies, il peut le réaliser dans la vie des autres personnes en dehors de cette ville, en dehors de cette communauté. Et j'ai vraiment, moi, ma passion, c'est la vision pour cette ville. Vraiment, j'aime énormément cette ville. J'aime évidemment la Belgique, mais j'aime énormément cette ville. Et je crois qu'il y a énormément de personnes qui ont besoin d'être restaurées, relevées, libérées. Et ma passion, c'est ça. Ma passion, c'est de passer du temps avec des personnes, de pouvoir leur amener l'espoir de Jésus et de pouvoir les aider dans leur vie au quotidien. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec vous et ensemble. Je vais juste vous donner le verset qui me suit. C'est un petit peu mon... Comment je vais dire ? C'est ma vision personnelle dans ma vie. Jésus lui répond, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. » C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Et quand je suis un petit peu tourmenté dans mes pensées, quand je sais plus quoi faire, quand je sais plus où je dois aller, ce verset revient. Et ok, Seigneur, je me reconcentre sur toi. Et puisque tu vas me donner, je veux le léguer aux autres. Voilà, soyez bénis.
Merci beaucoup.